Ah, puisque je pense une des premières fois on foule le texte un peu plus, pour vous répéter ça, et je le répéterai 100 fois si c'est nécessaire, vous comprenez à quel point on ne peut pas lire autrement la Bible qu'en hébreu et avec l'éclairage de la tradition orale. Sinon, on ne sait pas lire. C'est clair jusque-là? Bon. Alors, on continue. Et prenez le verset 5. Je vous lis le verset et vous allez me dire quelles questions ça vous suggère. Vayomer Abraham, et Abraham dit, El Ner Arab, à ses garçons, vous vous souvenez d'après le texte, verset 3, il a pris deux de ses garçons avec lui et Isaac son fils. Le Midrash établit que ces deux Néharim, c'est Ishmaël et Eliezer, le serviteur d'Abraham et Ishmaël. Vous allez voir pourquoi c'est important de cette précision, c'est-à-dire les deux candidats éventuels, si Isaac n'est pas Isaac, c'est un de ces deux-là, ou bien Eliezer ou bien Ishmaël. Vous vous rappelez? Alors, Vayomer Abraham, El Ner Arab, et Abraham dit à ses garçons, lorsqu'il est arrivé à un certain endroit où il peut déjà voir l'endroit désigné de loin, juste l'expression précédente, fin du verset 4, Vayar et Amakom Merachok, et il vit l'endroit de loin. Les chassidim ont beaucoup étudié cette expression. Dans le cheminement spirituel, on voit d'abord l'endroit de loin. L'endroit du rendez-vous, on le voit d'abord de loin. Ça, c'est le stade Abraham. Ce n'est que dans l'histoire de Jacob qu'on s'aperçoit que Jacob arrive à l'endroit. Vous verrez dans les textes concernant Jacob. Il garde un makom. Bon. Alors, à ce moment-là, Abraham dit à Ishmaël et à Eliezer, « Chevou lachem po imahamo » Restez quant à vous ici avec l'âne. Je vous explique chaque mot. Chez vous, restez. Lachem, pour vous, quant à vous. Po, ici. Vous connaissez ce mot, hein? Po. J'écris P et on va le voir tout à l'heure. Vani vehanar, et moi et le garçon, là il s'agit d'Itsrak, Nelecha adko. Nous irons jusque là-bas. Ko. Qui signifie là-bas. Quel est l'autre sens du mot ko si vous l'avez déjà, si vous l'avez déjà rencontré, hein? Ainsi. Ko. Continuons. Venishtahave, nous nous prosternerons. Venashuva alechem, et nous reviendrons vers vous. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ça veut dire nous reviendrons. Ça veut dire qu'il va ramener Isaac. Et comment il le sait? Bon, vous l'avez déjà étudié? Oui. La première réponse, c'est que à ce moment-là, il a une révélation prophétique malgré lui. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est en prophétisant qu'il a dit ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qui s'attendait, c'est une des questions d'hier. Qui s'attendait à ce que Dieu, au moment crucial, il faut jamais dire crucial, ça veut dire la croix, mais enfin, on parle français, etc. Et Dieu lui dira, non, maintenant je sais que... Ken? Et c'est pas possible de comprendre comme ça. Je reviens sur le principe.
Nous reviendrons, c'est de le ramener mort.
Nous reviendrons, c'est de... Bon, à pied. D'accord. On ne peut pas penser comme ça, qu'il se doutait qu'il reviendrait. Okay. C'est pourquoi le Midrash dit.
Je m'excuse, mais ses serviteurs ne pensaient pas qu'il allait sacrifier son fils, il ne pouvait pas l'enlever.
Mais il n'y a jamais de verset de mensonge dans la Bible. Jamais. Il ne peut pas dire un mensonge.
Aussi.
Par exemple.
Il les a posés à un endroit,
il pouvait
voir tout ce qu'il
allait se faire. Mais il a dit Nashuva Alechem, nous reviendrons vers vous. Ou lui, Abraham, voyait l'endroit de loin. Par conséquent, les autres pouvaient voir de loin. Non, c'est Abraham seulement qui pouvait voir jusque là-bas. Abraham ou Isaac? Très bien. Et où tu as vu ça? Tu étais là-bas, toi, hein? Tu ressembles à un bélier, des fois. On verra ça aussi. Effectivement, Abraham revient tout seul parce que Vous m'obligez à dire des tas de choses supplémentaires, mais en fait, ça ne fait rien. Mettez-les à leur place. Abraham revient tout seul parce que Dieu à Moria où a eu lieu la Hakeda, que ce n'est pas le sacrifice, Yitzhak est allé à la yeshiva de Shem et de Ever. Qu'est-ce que c'est que cette yeshiva de Shem et de Ever qui revient très souvent dans l'histoire des patriarches, dans les commentaires? Je vous ai déjà parlé une fois? Non. Alors reprenez les toladotes, les généalogies. En fin de compte, à partir de Noach, le Einyan Eloki, le projet de Dieu, passe à travers la lignée de Shem. Et donc, il y a une tradition de sagesse de Shem, bien antérieure à Abraham. La racine de l'identité des Hébreux, qui est d'abord la souche sémitique elle-même. Shem, c'est l'ancêtre des Sémites. Okay. Alors, et puis, dans cette lignée de Shem, il y a le stade de Hever, l'ancêtre d'Abraham, d'où Abraham s'appelle Abraham à Ivri, Hever. Alors, je vais vous rattacher ça très, très brièvement, sinon ça nous prendrait trop de temps. Alors, lecture depuis Caïn et Abel. C'est-à-dire que Shem a restauré, a commencé à restaurer la faute du premier homme vis-à-vis du Créateur et la reconnaissance de la souveraineté du Créateur. C'est, vous comprenez comment c'est le tikkun de la faute de Adam Arishon, désobéissance au Créateur, substitution de ma volonté à sa volonté, c'est ça la faute. Dans toute faute, qu'est-ce qu'il y a d'implicite? La Torah, c'est pas ta Torah, c'est la mienne, comme je veux moi. C'est ça la faute. C'est clair? Dans l'histoire de la philosophie, ça s'appelle l'humanisme. C'est la faute de Adam Arishon. Substituer l'homme comme critère des valeurs au créateur comme critère des valeurs. Vous avez compris? Bien que dans le terme d'humanisme, il y a aussi des aspects positifs, la dignité de l'homme, mais la limite philosophique de l'humanisme, c'est un peu ce que raconte dans la mythologie le mythe de Prométhée. Vous savez ce que c'est Prométhée? Bon. Alors, je reviens au problème. Shem restaure. Comment? Dans les commencements. Finalement, on a déjà appris que c'est au temps du roi David que ça sera achevé, cette restauration de la faute du premier homme. Vous vous rappelez de cela? Ça commence par Shem. Et révèle la faute de Caïn. Commence dans les commencements. Comment? Vous rappelez que le mot de frère avait disparu du texte quand Caïn a tué Abel. Vous rappelez de cela? La première fois qu'on le réemploie, c'est à propos de Hever. On l'appelle dans le verset « Ahi Yefet Agadol », qu'il est le frère de Yefet. Il est capable d'être frère. C'est clair? Donc il y a une tradition de sagesse préalable à la révélation au patriarche et qui est une sorte de sagesse préalable, je crois que le mot est suffisamment clair, à laquelle les patriarches s'initient pour prendre le relais. Le Midrash appelle cette initiation à la tradition ancienne de la lignée privilégiée des initiés, elle l'appelle la yeshiva de Shem et de Hever. Ça va? Chaque fois que vous avez une minute, un trou dans l'histoire de tel ou tel patriarche, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le Midrash intervient, il était dans la yeshiva de Shem et de Hever. Ça veut dire, il retrouvait la mémoire traditionnelle depuis le premier homme pour pouvoir prendre le relais. Ça va jusque-là? Donc, quelle est ta question? C'est clair? Alors, ça, c'est pour répondre à ta question. Effectivement, Abraham est revenu seul parce que Yitzhak est parti. C'est là, Abraham a compris, il faut l'envoyer à l'Yeshiva, pas l'offrir en sacrifice à la manière des païens. C'est clair? Bon. Attendez, je vais terminer pour être un peu plus complet là-dessus. Là-dessus s'accroche un Midrash qui dit que, en réalité, Yitzhak a été sacrifié, que Sarah l'avait appris, et c'est pourquoi Sarah est morte au moment du sacrifice d'Isaac. C'est clair? Alors, ça a l'air contradictoire avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce Midrash-là. Bon, retenez que ce Midrash, je le connaissais. C'est pas maintenant que je l'ai appris. C'est pas contradictoire. On apprendra, et je vous donnerai la source, ça se trouve dans le Shla, sur un texte du Zohar, mercredi, rappelez-moi cette question, que la Neshama a différents niveaux, et que c'est le Nefesh de Yitzhak qui a été... vous savez, dans ce ligotement dont j'ai parlé... C'est au niveau où la Midat HaDin s'insère de la façon la plus totale dans le monde de la réalité, le Nefesh de Yitzhak a disparu. Mais pas les autres niveaux de la Neshama. C'est clair? Mais je vous expliquerai ça plus en détail mercredi, quand on étudiera qu'est-ce que c'est que le Nefesh à tous ces niveaux. Ça va jusque-là? Vous avez d'ailleurs sur cette question, je vous l'annonce à l'avance, sur cette question de l'anthropologie de l'identité humaine, selon la tradition de la Torah, vous savez ce que ça veut dire l'anthropologie? Ça veut dire la science de l'identité humaine. un séminaire avec Ribon, qui a particulièrement étudié cette question, sur un livre très important, un tout petit livre, mais très important de Maïmonide, qui s'appelle Les Huit Chapitres, Shmona Prakim, qui est l'introduction au Pirkei Avot, l'introduction que Maïmonide a donnée au Pirkei Avot, et où il nous donne, je crois que c'est un livre extrêmement important dans l'histoire de la tradition et en général dans la littérature universelle. C'est certainement, avant la lettre, le premier livre de psychologie et d'anthropologie, l'étude de la structure de l'identité humaine. Et là, nous apprendrons quels sont les différents niveaux du Nefesh. Okay. Alors, c'est de la Neshama. Le niveau inférieur de la Neshama s'appelle Nefesh. C'est le niveau où la Neshama est insérée dans le corps. Alors, c'est le Nefesh de Yitzhak qui a disparu à la Hakeda et pas du tout sa personne. Ça veut dire qu'il redescend de la Hakeda transfiguré, pouvant être l'ancêtre du roi David. Vous vous rappelez de cela? Toujours dans les imageries, dans le midrash du sacrifice d'Isaac, on voit que pendant que se passe cette scène, dans un petit coin, il y a le roi David avec sa harpe en train de chanter. Je ne sais pas si vous avez vu des imageries de ce genre.
Est-ce que vous dites maintenant et peut-être à l'origine de l'interprétation chrétienne?
Je veux dire, en général, c'est exact, en général, l'interprétation chrétienne, c'est le passage à la limite du grossier des enseignements de la Bible. Vous avez compris ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous dire ça. Non, je ne voudrais pas vous donner des exemples, mais non, mais retiens le principe. Okay. Par exemple, ce qui arrive à Sarah, okay, c'est plus légendaire que ce qui arrive à Marie. Okay. Oui. Alors, ce qui arrive à Marie, ils ont fait un mythe, alors que la Torah ne fait pas de mythe avec ce qui arrive à Sarah. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est clair? Je vais essayer de vous montrer la différence des deux scènes. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Bon, il y a un ange qui vient annoncer à Sarah, à son âge, qu'elle va avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit. On est tranquille, en bonne sécurité, santé mentale. Un ange qui vient se déranger pour dire à Sarah, à son âge, qu'elle va avoir un enfant. Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Une bonne juive, elle se met à rire. Bon. Et puis, deuxième scène, ça c'est l'annonce faite à Sarah. Deuxième scène, l'annonce faite à Marie. Il y a un ange qui s'amène et qui dit comme ça à une petite fille, tu vas Dieu, elle croit. C'est pas sérieux? Vous voyez la différence? C'est clair. Attends. Ça veut dire, c'est le passage à la limite du grossier païen des thèmes d'identité, de l'identité d'Israël. Vous avez compris le problème? Alors rappelez-vous toujours, tu ne te feras pas d'image. Alors dès qu'on se fait des images avec ces choses-là, vous voyez où ça mène. Et c'est ce que dit le mythe qui en parle. Vous vous rappelez quand l'ami Philippe était là? Ne rigolez pas, ça fait 45 ans qu'on était amis. On s'est connus il y a longtemps. Je ne vous ai pas raconté son histoire. C'est un théologien chrétien, d'ailleurs. Vous avez dû remarquer à quel point il hiérarchie mieux que je ne sais pas qui. Et alors, depuis très jeune, à cause de la Shoah d'ailleurs, il a été préoccupé par l'attitude négative du christianisme vis-à-vis des juifs. Il s'est mis la tête là-dedans. Et puis, ce n'était pas son métier d'ailleurs. Son métier, je suis ingénieur en je ne sais pas quoi. En plus, il est théologien. Je l'avais rencontré dans une des rencontres. Cherchait désespérément une manière de pouvoir rester chrétien tout en aimant les juifs. Et ce n'est pas une blague. C'est très difficile. Et alors, en fin de compte, il a pris sa retraite et puis il m'a téléphoné en me disant « Ça fait 40 ans que j'attends, mais maintenant, ça y est, je suis libre, je viens étudier. » Je lui dis « Viens. » Vous avez compris le problème. Malheureusement, il ne parle plus, alors ça le gênait beaucoup de ne pas pouvoir parler. Donc, peut-être que s'il se guérit, il revient. Sinon, il revient l'année prochaine, on vous fera une rencontre avec lui. Plus que gentil, c'est vraiment une réussite du christianisme. Un hérétique. Bon, alors, mais rendez-vous compte à quel point ce genre d'hommes, il y en a quelques-uns sur la planète, sont très malheureux. Parce qu'ils ont un problème insoluble. Vous comprenez pourquoi? Donc, je l'avais dit souvent d'ailleurs, ils ne pourront pas s'en sortir si on ne leur donne pas un coup de main. Le problème qui se pose aux théologiens chrétiens de bonne foi, ça c'est un petit exemple, il y en a de plus grand que lui, Et encore, ils ne peuvent pas s'en sortir si des théologiens juifs ne les aident pas à s'en sortir. Alors tant que Ésaü n'aime pas Jacob et Jacob n'aime pas Ésaü, c'est pas possible. Un jour, ça arrivera. Quand le christianisme aura disparu, on a le temps. Bien, alors j'ai un problème. Lequel, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu veux dire?
Vous avez dit quelle était la trace dans le texte qui pouvait faire comprendre que Éver faisait le tikkun de la foule de carré, mais pour Shem.
Oui. Regardez bien le nom. Hein. Le nom de Shem, ça veut dire le nom. Ça, c'est par rapport à la faute de Babel. À la faute de Babel, le verset, c'est « Narasé l'anou Shem ». Nous allons nous faire un nom. Vous vous rappelez de cela? Alors que Shem est celui qui reconnaît la souveraineté du nom de Dieu. Regardez dans l'histoire comment ça arrive. Finalement, le monothéisme est parti d'où? Des Sémites. C'est clair? Bon, la source, la racine, la souche, c'est Shem. Shem. Et Aéver, c'est la capacité de fraternité. Elle commence, elle germe avec l'ancêtre d'Abraham. Au moment où Abraham apparaît dans l'histoire, dans le monde, ça éclate. Frère, sœur, vous vous rappelez de cela? Bon, alors voilà ce que c'est que la yeshiva de Shem et d'Aéver. Ça va jusque-là? On avance? Attends, il y a la grosse question là, qu'est-ce que ça veut dire que je reviendrai vers vous? Et nous reviendrons vers vous. Ouais. Bon, oui.
Non, mais justement, par rapport à Ishmael, comment ça se fait que, dans le sens où il savait que Yitzhak partait avec Abraham, et il savait pertinemment pourquoi, comment ça se fait que lui n'a pas demandé à
aller plus loin? Ishmael était un garçon obéissant, son père lui a dit reste là, il reste. Vous allez comprendre plus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, restez ensemble, vous deux, restez ensemble, vous deux et l'âme. On va voir ce qu'il va dire après. Okay. Et alors, je vais vous expliquer cela. Mais d'abord, répondre à la question. Okay. La première réponse qu'on nous propose, c'est par prophétie. Et là, j'en profite pour dire, ça veut dire que sa parole le dépasse. Et il prophétise sans savoir qu'il prophétise. Voilà que la réponse. Mitnabe, veno yodéar, chez vous mitnabe. Alors, à partir de là, on pourrait dire qu'il voulait une stratégie d'aménagement avec les autres, les rassurer, etc. Mais nous verrons qu'il y a beaucoup plus que cela. Alors là-dessus, je reprends le problème de fond. Même si Abraham, entendant ce que lui-même dit, a en tête cette éventualité, peut-être que Dieu, comme je l'ai connu, ne va finalement pas me demander ça, il n'en tient pas compte. C'est bien clair. Ça veut dire, même si je sais intellectuellement qu'il y aura une issue bienheureuse à l'épreuve, quand on passe l'épreuve, elle est l'épreuve. Parce que la connaissance intellectuelle de l'issue, ça joue en rien dans l'épreuve. Vous comprenez? Par exemple, nous étions très nombreux pendant le temps de la Shoah à être intellectuellement sûrs que le peuple juif allait s'en sortir. Mais comment? Personne ne savait. Simplement, on avait cette espérance de certitude. Mais l'épreuve était l'épreuve. Encore une fois, quand on vit l'épreuve, la connaissance prévisionnelle de l'issue heureuse ne joue aucun rôle. L'épreuve, c'est l'épreuve. C'est bien clair, on peut le dire autrement, mais je voudrais que vous reteniez bien cette idée. On ne joue pas à la loterie avec une martingale. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que ça veut dire? Non? C'est-à-dire, ceux qui jouent au jeu de hasard, là, comment on appelle ça? La roulette. Mm-hmm. Oui. En connaissant la règle qui mise à coup sûr, c'est pas ça la vie. On ne connaît pas le mode d'emploi. Si on connaissait le mode d'emploi, c'est clair? Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle l'astrologie est interdite. Faire semblant de savoir ce qui va se passer. Parce que si on fait semblant de savoir ce qui va se passer, le problème moral n'a plus de base. C'est clair? On parlera peut-être de ça un jour plus.
On dit ça vient des Juifs, l'astrologie.
Ça doit venir d'un juif orgueilleux. D'où vient les juifs? Vous rappelez comment ça se passe chez les Russes? Ça, c'est Popov qui l'a inventé. Non, c'est pas vrai. L'astrologie ne vient pas des juifs. Il y a eu énormément de juifs qui étaient des grands astrologues. Ça ne veut pas dire que... Ça vient de Noir. Ça fait partie de la sagesse de Noir. Mais ça, je vous en parlerai un autre jour, au moment de la sortie d'Égypte.
En astrologie, il faut reconnaître l'astrologie, mais ne pas y croire.
C'est pas exactement comme ça. Les forces dont parle l'astrologie sont des forces réelles. La religion païenne astrologiste consiste à s'y soumettre. La Torah, ça consiste à s'y opposer. Vous comprenez ? C'est bien clair. Alors on étudie l'astrologie pour savoir ce que c'est. C'est important du point de vue de la science théorique. Mais ce qui est interdit, c'est de la pratiquer. C'est ça l'idolâtrie. Se soumettre aux forces de la nature. Vous comprenez le problème ? Bon. Donc, mais ne vous préoccupez pas de ces choses-là. N'est pas l'âge. Je vais dire pourquoi. Parce que si jamais, par hasard, par coïncidence, vous vous apercevez que quelque chose s'est arrivé, alors vous allez croire que l'avenir est préfiguré, ça fait éclater le problème moral. C'est clair ? Vous avez bien compris ce que je veux dire ? Oui. Je vous donnerai une règle. J'ai un peu étudié ces choses-là. Il y a deux choses qui ne marchent pas avec un juif traditionnel. Je ne veux pas dire orthodoxe parce que ça a pris un sens péjoratif, mais c'est le sens. Un juif qui pratique le chemin là-haut, vraiment, il y a deux choses qui ne marchent pas. La psychanalyse et le thème astral. Je vous ai parlé de la psychanalyse une fois, ça ne marche pas. Alors quand ça marche, c'est que c'est un juif assimilé, même s'il pratique. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Et les astrologues savent que le thème astral, ça ne marche pas avec les juifs pieux. On n'est pas soumis à ça. Et dès qu'on n'est plus soumis à la Torah, on se retrouve soumis à la carte horoscopique du pays où on vit. Vous avez compris le problème ? C'est ça l'assimilation.
Il y a des synagogues avec des mosaïques avec les signes.
C'est les signes du zodiaque. Et ils ont une autre signification en astronomie. Ils ont une autre signification. Alors, on parlera de cet un jour, réfléchissez dans cette dimension. Alors voilà ce que je voulais vous signaler. Maintenant, nous allons prendre le verset pour lui-même. Et je vais vous donner l'enseignement du Midrash à ce sujet, en particulier tel qu'il a été mis en forme par le Maharal de Prague. Alors, relisez le verset avec moi. « Vayomer Abraham el Ne'arav, et Abraham a dit à ses garçons, « Chez vous lachem po imahamo, restez là avec l'âne. » Le Midrash pose la question. Pourquoi j'ai besoin de « avec l'âne » Si vous suivez, bon, parce qu'on va maintenant changer de registre assez rapidement, alors approchez-vous. Le Midrash pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qui doit rester avec l'âne ? Alors, le Midrash dit, « Am domé la hamour », parce que ce peuple ressemble au hamour. Qu'est-ce que ça veut dire que ce peuple ressemble ? Sachez qu'on ne trouve jamais de calomnie dans le Midrash. Alors, il veut dire que ce peuple, au niveau de l'humanité, ressemble au hameau au niveau de la vie biologique en général. Et le Midrash veut nous dire, c'est le Homer. Qu'est-ce que c'est le Homer ? La matière. Okay. Ça veut dire que c'est l'évolution spirituelle la plus possible dans les limites de la matière. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Okay. Alors retenez, hameau, Homer, c'est-à-dire la matière. Vous verrez cette image qui revient très souvent dans la prophétie, où le patriarche sangle son âne. D'ailleurs, dans ce chapitre, okay. Par exemple, le Midrash qui dit que le Mashiach viendra chevauchant un âne. Chevauchant un âne. On ne peut pas dire un non un âne. Okay. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire maîtrisant la matière, subjuguant la matière. C'est le sens de cette image. C'est clair ? Vous avez bien compris cela. Sangler l'âne, ça veut dire maîtriser la matière. Alors, il y a. Parce que l'âne s'appelle Hamour. La vraie question, c'est pourquoi l'âne s'appelle Hamour. Alors, d'ailleurs, Hamour a un autre sens dans la même racine, ça veut dire rouge, rouge un peu roux, un peu rouge-brun. Et c'est pourquoi le Midrash dit que le Mashiach sera habillé de blanc, chevauchant un âne rouge. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, je vais vous expliquer ces deux mots de peau ici, pas plus loin, co jusqu'à là-bas. Alors, je vais aller assez rapidement parce que je crois que vous avez assez d'éléments pour pouvoir le comprendre. Regardez bien, la Kabbalah a posé la question suivante. Pourquoi peau ici et co là-bas, ça s'écrit avec ré et pas avec vav. On aurait pu avoir peau, pe, vav, et co, ke, vav, kabbalah, vav. Et voilà. Alors, laissez-moi vous faire l'explication, c'est très simple. Et puis après, je pense que vous comprenez la valeur d'énergie. La valeur d'énergie de peau, ça fait 85. Z plus 1, ce qui serait peau comme ça, ça fait 86. Z.
On va rien faire.
Bien Voilà. Pau a comme valeur numérique 85. Plus 1, ça se serait écrit Pau comme ça, arrivera à vous rappeler la question du métrage. Hein, ça ferait 86. Alors 86, c'est la valeur numérique de quel mot? On a pris ça une fois. Comment on dit la nature? Comment ça fait ça? Aïe. 70. Hein? Non, non, comptez avec moi. Je sais même que vous n'avez pas compté, moi aussi. 70, 72 et 9.
86.
80. 1. Alors, ratevar, ça fait 1. Et vous rappelez que c'est la valeur numérique du mot Elohim. Dieu comme souverain de la nature. Vous vous rappelez? Bon. Donc, ce niveau de faux, ça indique la sainteté au niveau de la nature et pas plus, mais avec un degré de moins qui indique la transcendance de Dieu lui-même. C'est clair? 85 et pas 86. Voilà, je vous résume, c'est beaucoup plus ample que ça, donc les données minimales, pour que ce soit simplifié. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de spiritualité dans les limites de la matière que Ishmael et Eliezer ne dépasseront pas. Alors vous, vous allez rester jusqu'à Pau. Ça veut dire, c'est pas dans la plaine de Pau, là-bas, j'ai dit italien, mais 85, c'est l'extrême limite de la sainteté au niveau de la nature. Ça va? Alors vous devinez la suite. Pau, ça fait combien? 25. Plus 1, ça fait 26. Et qu'est-ce que 26? La valeur numérique de Shemot. Du nom de Dieu. Ça y est, c'est clair? Voilà. Alors ici, c'est un verset très important et que je vais continuer à vous enseigner, un peu en débordant le problème de Sérémy d'Isaac, sur le comportement général de la vie spirituelle d'après la Torah. Et là, très très important.
Que j'ai même remarqué sur la route de Jérusalem.
Comment?
Vous avez un panneau, alors à chaque fois c'est prendre 20 lits, il y a un panneau qui est marqué 26 kilos.
Bon, ça c'est une coïncidence.
C'était une coïncidence.
Oui. Alors, ça me rappelle un de mes professeurs qui nous enseignait la gamatria. Il disait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un et un, ça fait deux. C'est précisé à ça, un mystère. Et deux, ça fait quatre.
Bon. Quoi?
C'est pour indiquer que la créature ne peut pas atteindre le niveau de sainteté du créateur.
Donc, par rapport au sang du jardin aussi.
Par rapport au sang du... Non. Par rapport au niveau de l'unité que représente 85-86. Parce que vous apprendrez d'autre part le sens de ces chiffres. Simplement, je vous les indique parce qu'on les lit en clair. Okay? Ça veut dire, retenez bien l'idée. Eliezer et Ishmael ne peuvent aller que jusqu'à Pau, la limite du Hamor, c'est-à-dire de l'être de matière. Ça va? Tandis que Vani, Vana, Abraham et Yitzhak, Nelecha, Atko, nous irons jusqu'à la Havaya, le degré avant de vis-à-vis. Okay? C'est la prétention du panthéisme que la créature coïncide avec le créateur. Alors chez eux, c'est écrit 86 et 26, et pas 85 et 26. Vous avez compris ce que je veux dire, en disant chez eux c'est écrit, c'est pas écrit, bon, pas. Alors, le Maharal en a profité pour mettre en évidence qu'il y a deux niveaux de comportement de la sainteté à l'intérieur des limites de la matière, et c'est une sainteté authentique. Ishmael Kacher et Eliezer Kacher peuvent arriver à cette sainteté authentique dans le niveau matériel, et vous voyez se profiler un peu leur monde spirituel, c'est clair? Alors que Abraham et Yitzhak vont aller au-delà, jusqu'à la sainteté qui dépasse la matière, jusqu'à la Havaya. Et vous verrez par la suite l'importance extraordinaire que ce mot de Ko joue dans les bénédictions données à Israël. Ko Yezarach. Ko Yezarach. Ko Tevavichu et Israël. Ça veut dire que rappelez-moi peut-être mercredi, on aura le temps de passer de par là. C'est 25 degrés qu'il faut gravir pour rejoindre l'authenticité de l'identité d'Israël en face à face avec Dieu. C'est les 26, c'est les degrés que Moïse a montés.
Abraham
et Israël, ils vont jusqu'à Ko, bien sûr. Okay. C'est les Avot montrent l'identité d'Israël réussie. Et c'est pourquoi c'est leur identité qui nous est donnée comme modèle de programme de réussite. Alors, mais quand même, nous verrons qu'il y a le cas, tu as bien fait de poser la question, le cas particulier de Moïse, c'est un cas particulier. Donc, face à face. Alors, je reviens à notre question. Et maintenant, ça c'est jusque-là la marre qui a mis bien ces données en évidence, qu'il s'agit là de deux conduites spirituelles différentes, radicalement différentes, l'une à l'intérieur de la matérialité et l'autre dépassant la matérialité. Je reviens à ça. Donc, la caricature de cela, nous allons la trouver chez Bilham, le prophète des nations, au moment où on le rencontrera dans le texte. Vous avez entendu parler de l'ânesse de Balaam, ok? Bilham. Balaam en français, mais c'est Bilham en hébreu. Vous avez une scène où lui aussi il monte, mais c'est une ânesse, et puis c'est pas un âne, ça joue. Et puis c'est la caricature d'Abraham dans cette entreprise de subjuguer le monde de la matérialité. Je vous en parlerai longuement à ce propos-là, en citant le Maharal d'ailleurs. À partir de cet enseignement du Maharal, et ça s'appelle peau d'un côté, co de l'autre, okay, le Rav Nachman de Breslav. Vous avez entendu parler du Rav Nachman de Breslav, le Breslaver, comme on dirait. Il est une des grandes dynasties des Hassidim, un des grands maîtres des Hassidim, a donné l'enseignement suivant. Il dit, voilà, nous avons là la loi de la vie spirituelle. L'erreur, c'est de dire, je dois dépasser la matière, et bien je quitte la matière et je reste dans l'esprit. Okay? Ça, c'est l'erreur des mystiques qui échouent. Okay? D'autant plus que c'est une prétention fausse, c'est de l'hypocrisie spirituelle, parce que ceux qui vous disent ça restent dans la matière. Ils ont quand même un corps. Okay? Vous suivez ce que je veux dire? Et une espèce de hypocrisie, peut-être pas le même mot, mais de psychodrame de la mystique, où quelqu'un de chair et de sang vous dit « je ne suis pas de chair et de sang ». Vous avez compris ce que je veux dire? Ça se soigne. C'est clair ce que je dis là? Alors, voilà quel est le programme. Il est nécessaire d'aller jusqu'à là-bas pour se transfigurer, mais on revient. Tant qu'on ne revient pas, c'est l'échec. C'est clair? C'est l'enseignement du Rav Nachman de Breslav qui est très important. Voilà que c'est, quel est le programme de la spiritualité juive, enfin hébraïque. C'est bien sûr avoir l'expérience du dépassement de la matière, mais pour y revenir la transfigurer. Et pas quitter la matière, se faire à cet ermite, je ne sais pas quoi, et faire semblant de vivre dans le ciel, alors qu'on mange quand même des haricots. Vous avez compris le problème? C'est clair. Et nous verrons d'ailleurs les compensations inévitables, hypocrites, que ce type de mystique, peut-être pas moins, mais c'est peut-être plus grave, que ce type de mystique doit s'aménager pour pouvoir exister. Par exemple, le problème de la chasteté chez les moines. Okay? Vous connaissez l'histoire. Bon, alors on s'arrange avec la servante. Mais en fait, ça change rien. Bon, je reviens à eux. Il y en a qui réussissent, mais c'est des cas exceptionnels. Okay? Ils ont des servantes transparentes. Les servantes du Seigneur. Vous n'avez qu'à lire toute cette littérature-là, et c'est le drame de cette mystique exagérée qui finalement se condamne à un enfer perpétuel parce qu'ils sont quand même un corps. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous voyez comme c'est très loin du judaïsme de la Torah. C'est clair? Voilà quel est le programme. Nous allons aller jusqu'à là-bas, nous prosterner et revenir. Et quand on revient, on se redresse. C'est clair? Vous avez bien compris? Alors retenez bien ces deux étapes. La spiritualité au niveau de la matière. Vous comprenez pourquoi le Midrash dit Am Domé Lahamo, et d'autre part, le fait que, après l'expérience de la Hakeda, on revient dans l'histoire. Alors que dans la mystique Goy, on sort de l'histoire pour sortir de l'histoire. Mais comme on a encore les histoires de corps, alors on s'en sort pas. Voilà, vous avez compris? Oui. Oui.
Alors,
oui, mais faites attention que, Nachon, que vous rappelez quand je vous ai parlé que chaque homme représente le résumé de toutes les tendances de l'histoire humaine. Vous vous rappelez de cela? Vous dites Kretschema, c'est clair? Il faut bien faire attention que ces tendances sont des tendances dévoyées. Les juifs sont soumis à toutes les tentations. Ça vous expliquera pourquoi toutes les catastrophes spirituelles sont sorties des juifs. C'est nous qui avons fondé le christianisme, c'est nous qui avons fondé l'islam et le reste. Un jour, on sera jugé pour ça. Hein? On est capable de fonder n'importe quoi. C'est de la fondation. Mais tu as raison, il y a une tendance à cela.
C'est une forme de simulation.
Non, c'est ce qu'on appelle exactement le dévoiement. Une tendance à l'origine authentique mais dévoyée devient une catastrophe. C'est clair ? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être chirurgien, à la rigueur boucher, qui se fait assassin. Vous avez compris ? C'est la même tendance. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Tu as remarqué qu'elle a disparu ? Mais même dans le temps contemporain, vous avez cette tendance. Rencontrer des juifs dans la rue, en particulier à Jérusalem, c'est plein. Deux gens qui ont un air mystique sur la figure, quand même, ça se reconnaît tout de suite. Non, à la figure. Oui, le chapeau. Voilà. Et alors. Et qui ont cette tendance, quand même. Une vie spirituelle authentique est désincarnée complètement. Alors ils se baladent avec un corps en disant je suis désincarné. Et c'est des hommes ou des femmes, il y a aussi chez les femmes, très malheureux. Parce qu'ils sont devant un faux problème, une impasse dont ils ne peuvent pas se sortir. Et imaginez le drame, parce qu'il y a de la bonne foi là-dedans. Imaginez le drame. La vraie vie spirituelle, c'est l'âme sans le corps. Mais j'ai un corps. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Alors je dis que j'ai pas de corps, mais il en a un quand même. Et le soir, quand il se couche, son corps travaille. Okay ? C'est clair ? Alors méfiez-vous de ces choses-là. C'est vraiment la fausse monnaie, les faux monnayeurs. Alors voilà, vous avez le programme dans ces versets. Alors on se reverra quand ? Merci. Ben, c'est bien.